Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, rediffusion d'une formidable série de Sur les Docs de 2009, La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant, par Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une fascination pour ces pierres tirées de la terre, des cailloux qui peuvent rendre fous, et aussi une envie de regarder au-delà des reflets trompeurs. Parce que le diamant, c'est un fantasme, mais surtout, c'est un travail infernal pour ceux qui creusent et un commerce qui rapporte pour ceux qui vendent. Et accessoirement, c'est un voyage qui raconte nos histoires, coloniales, commerciales, sociales et économiques, l'histoire de rapports de force qui basculent du Congo à Bombay en passant par Anvers et Dubaï. Pour commencer, les personnages, des pères, des fils, des frères, des cousins, des oncles chats ou bien méta, des financiers, des vendeurs, des acheteurs de pierres à la vue et leur œil de lynx, des experts, des cleavers et des Congolais devenus indiens. Ensuite, le décor. Des rues bondées où tintent les sonnettes des vélos, des klaxons, des bureaux aux fenêtres ouvertes sur la vie du dehors, des entreprises internationales qui prennent des risques, des multinationales prospères, un peu de climatisation et de rares courants d'air. On est en Inde, à Bombay, et le diamant, c'est aussi une drôle d'histoire de famille.
La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Troisième volet, Bombay, Inde.
Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
Now most of them will have surnames from Shah or Mehtas.
La plupart d'entre eux s'appellent Shah ou Mehta.
Basically, Shah is a community.
Les chats appartiennent à la communauté Jain. Nous adorons Mahavir, le plus ancien gourou Jain, et le dieu Bouddha. Cette communauté est connue pour suivre le principe de non-violence. Chat est un nom qui désigne une famille de haute lignée qui a de l'argent et qui le donne aux pauvres. Il signifie bienfaiteur de la communauté. Metta est un nom de famille qui désigne l'activité professionnelle de celui qui le porte. Il s'agit dans ce cas de la comptabilité. En Inde, comptable se dit Metaji.
Il y a 3,5 millions de Jains en Inde. La raison pour laquelle il y a tant de Shah et de Metta dans le business du diamant, c'est que la plupart des diamantaires sont originaires d'une petite ville du nom de Palempur. Elle est située dans le district de Banaskantha, dans l'état du Gujarat, à 400 km au nord de Bombay. Au fil des années, ils ont immigré dans le monde entier pour développer leurs affaires.
Le grand jeu des chats et des méta.
Starring
avec
Anoop Mehta,
Vasant Mehta,
Russell Mehta,
Shaitan Shah,
Prarag Shah.
Anoop Mehta, vous êtes directeur général du groupe Mohit Diamonds, une grande firme du diamant installée ici à Bombay. Et vous êtes également président de la Bharat Diamond Bourse, qui est la bourse du diamant indienne. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire du développement de la taille du diamant, qui remonte à quelques siècles déjà, je crois?
La mine de Golconde, en plein centre de l'Inde, est une des mines de diamants les plus anciennes du monde. Quand on y extrayait du diamant brut, il y a 3 ou 4 siècles, il était taillé ici. Bien sûr, on ne taillait pas encore à l'échelle que nous avons atteinte aujourd'hui, mais tous les joyaux des rois moghols étaient alors taillés en Inde. Quand les Néerlandais sont arrivés dans notre pays, ils ont appris notre technique et l'ont importée en Europe. Avec leurs instruments de précision, ils ont ensuite développé la taille des diamants à Amsterdam et dans toute la Flandre. Mais la taille existait en Inde bien avant que l'Occident ne s'en empare.
Prarag Shah, vous êtes le dirigeant d'une firme diamantaire ici à Surat.
Pourquoi spécialement à Palempur s'est-on mis un jour, entre Shah et entre Mehta, à faire du diamant?
being Gujarati, the very strong characteristic is being entrepreneur.
Tous les Gujaratis sont un peu entrepreneurs. C'est dans leur sang. Pas un Gujarati digne de ce nom ne va postuler pour un emploi salarié. Il préférera avoir sa propre entreprise, aussi petite soit-elle, pourvu que ce soit son entreprise. Au départ, ce sont donc trois ou quatre familles de Palanpur qui sont venues à Surat, la grande ville du Gujarat, puis un peu plus au sud, à Bombay, pour chercher de nouvelles affaires à développer. Et ils sont tombés sur ce business du diamant. Quand ils ont constaté que ça marchait bien, ils ont appelé des membres de leur famille, puis certains de leurs amis, puis des gens issus de la même ville, afin qu'ils viennent les rejoindre. C'est ainsi que le commerce du diamant a commencé à fleurir à Palanpur dans les années 50 et 60. Moi, au départ, je viens d'une famille de prêteurs qui accordaient des crédits aux agriculteurs et aux petits commerçants dans les zones rurales. Mais quand mes aïeux ont vu que le business du diamant marchait bien, ils ont envoyé un fils, un frère, un cousin à Surat, puis à Bombay, puis à travers le monde. Et c'est comme cela que le secteur du diamant s'est développé. Vasant Mehta.
Et quelques années après l'indépendance, le nouveau gouvernement a pensé que l'Inde était un pays pauvre, qui ne pouvait pas se permettre de consommer un produit de luxe comme le diamant. Alors il a interdit l'importation des pierres. Avec le recul, je pense que cette interdiction s'explique aussi par la fuite des capitaux hors du pays que ce commerce provoquait. À cette époque, nous avons appris que les compagnies minières vendaient d'impressionnantes quantités de diamants bruts comme des diamants industriels, en raison de leur toute petite dimension, alors que la qualité de ces diamants faisait qu'ils avaient peut-être une chance d'être utilisés en joaillerie. Quelques entrepreneurs indiens, basés à Londres et à Anvers, ont vu là une grande opportunité pour leur pays. Ils sont allés rencontrer les autorités indiennes pour les convaincre de saisir cette occasion. Alors, en 1966, le Gem and Jewelry Export Promotion Council, le Conseil pour la promotion des exportations de pierres précieuses et de bijoux, a été fondé. Et une loi nous a autorisé à importer à nouveau les diamants bruts pour les tailler en Inde et les réexporter sur les marchés extérieurs. Les diamantaires indiens ont ensuite fait venir des tailleurs belges dans le pays pour enseigner les dernières techniques de facettage des diamants de taille brillant qui comptent 57 facettes. C'est comme cela que l'industrie indienne de la taille a démarré. Et c'est à cette époque que je suis moi-même entré dans le business.
Vous savez, le gouvernement indien cherchait toujours à augmenter les exportations. Il n'avait pas assez de réserves de change, en particulier pour s'approvisionner en pétrole, le plus important poste de dépense du pays. Le gouvernement avait régulièrement besoin de devises et il cherchait toujours à mettre en place des politiques favorables aux exportations.
Russell Mehta, vous êtes donc un des cadres de Rosie Blue, cette grande multinationale indienne du diamant. Vous êtes également, je crois, le neveu de Dilip Mehta, le directeur général de cette compagnie que nous avons rencontré à Anvers.
Yeah, absolutely.
Quand Rosie Blue a été fondée et par qui?
Rosie Blue, as a company, it was founded by my father.
Rosie Blue a été fondée par mon père, Arun Mehta, et un de ses cousins, Banuchandra Mansali. Sous le nom de B. Arun Kumar & Company, en 1960, à Bombay. Les deux frères de mon père, Arshad et Dilip, sont entrés dans la société après avoir achevé leurs études au début des années 1970. En 1974, mon père a conseillé à mon oncle Dilip d'aller à Anvers, parce que c'était un centre clé du négoce des diamants.
Spoke to my uncle Dilip that he should move out and live in Antwerp. So in India we were known as B. Arun Kumar and Company.
En Inde, nous étions donc connus sous le nom de B. Arun Kumar. Et en dehors du pays, la compagnie s'appelait Rosie Blue.
1974, I think the family's
À partir de 1974, la famille a voulu écouler les diamants taillés en Inde et se rapprocher des consommateurs finaux et des marchés de détail de plusieurs pays. Alors Dilip a ouvert un bureau de vente à New York et un autre à Tokyo en 1977. Rosie Blue est l'une des plus anciennes sociétés diamantaires présentes dans ce pays. Et puis bien sûr à Hong Kong, en Chine, en Thaïlande, en Israël.
Je suis arrivé de Calcutta en 1966, au moment où les diamants bruts, qui étaient classés comme des near gems, c'est-à-dire des pierres semi-précieuses, étaient vendus comme des diamants industriels. Ces pierres semi-précieuses peuvent être transformées en diamants de taille brillant. Dans les années 60, elles étaient vendues au prix du diamant industriel, beaucoup plus bas que celui du diamant de joaillerie, parce que ce n'était pas rentable de tailler les near gems dans le monde occidental, en raison de charges sociales trop élevées. Quand notre pays a saisi cette opportunité de transformer ces petits diamants en pierres destinées à la joaillerie, un nouveau monde s'est ouvert pour l'industrie diamantaire en Inde.
Russell Mehta, votre compagnie, Rosie Blue, et Sightholder, donc fait partie des Happy Few, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont le droit de recevoir un lot de diamants de la part de la DTC, la Diamond Trade Company, qui est donc la société fondée par la De Beers, qui permet à différents Sightholders de recevoir des diamants bruts qui viennent des mines de la De Beers. Vous êtes en cheville également avec Rio Tinto, qui est donc une compagnie minière australienne, je crois.
Il y a encore quelques années, De Beers avait le monopole du commerce des diamants bruts. 85 à 90 % des pierres brutes étaient vendues par De Beers. Et chaque compagnie qui ambitionnait de devenir un négociant important sur le marché devait devenir client de sa filiale, la Diamond Trading Company, la DTC, si elle ne voulait pas rencontrer des difficultés pour s'approvisionner en diamants bruts. Les clients de la DTC, on les appelle des sightholders, parce qu'ils achètent les pierres au cours de sites, autrement dit des vues, qui ont lieu régulièrement. Rosie Blue et Biarun Kumar sont devenus clients de De Beers en 1969. Nous sommes l'un des plus anciens sightholders de la DTC. Cette situation a joué un rôle significatif dans le développement des activités de Rosie Blue, parce que les fournisseurs de pierres brutes disposent d'un réel pouvoir. Il est difficile de se procurer des diamants bruts. De Beers joue toujours un rôle important pour ceux qui veulent survivre dans le business des diamants. Mais comme nous sommes une compagnie globale, nous devons aussi veiller à diversifier nos achats de brutes en dehors du système de Beers. Nous sommes donc devenus clients des compagnies minières anglo-australiennes Rio Tinto, BHP Billiton, de la société russe Alrosa, et nous nous approvisionnons aussi sur la place d'Anvers quand nous trouvons des pierres à un prix intéressant.
J'aimerais qu'on en revienne, Monsieur Mehta, à l'histoire des commerçants du diamant indien. Lorsqu'on arrive dans votre entreprise, Mohit Diamonds, on voit accroché au mur un Sightholder Certificate, un certificat qui vous donne accès aux séances de vue organisées par De Beers 10 fois par an, où vous pouvez acheter du diamant brut.
So they have about roughly 82 clients.
La DTC a 82 clients dans le monde entier. Depuis une quinzaine d'années, environ 30 d'entre eux sont indiens. Mais le nombre d'Indiens devrait être plus important parce qu'en volume, 90% des diamants du monde sont taillés en Inde. Et en valeur, ce sont la moitié des diamants qui sont transformés en Inde. Logiquement, le nombre de clients indiens de De Beers devrait donc être compris entre 50 et 90%. En tout cas, ce ne devrait pas être un peu plus d'un tiers, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et les Indiens ont rendu la bijouterie diamantée à portée de presque toutes les bourses dans le monde. Avant que l'industrie de la taille ne se développe ici, les bijoux diamantés étaient réservés à un petit nombre de consommateurs privilégiés. Maintenant que l'Inde taille des diamants de toutes les dimensions et de toutes les couleurs, presque tout le monde peut se permettre d'acheter une bague ou un pendentif diamanté. Aujourd'hui, vous pouvez acquérir une bague pour 59 à 69 dollars. Ce ne sera pas la plus belle, d'accord, mais c'est quand même une bague avec un diamant. Donc, en termes de valeur, nous avons encore un fort potentiel pour conquérir les 50% du marché qui nous échappe encore. C'est la raison pour laquelle nous développons notre infrastructure. Et quand vous irez à Surat, vous verrez qu'il y a un nouveau parc destiné à la bijouterie. Parce que c'est en transformant vos diamants taillés en bijoux que vous créez la plus forte valeur ajoutée.
Surat est la ville la plus jeune du pays. Plus de 70% de ses 3,2 millions d'habitants ont moins de 30 ans. C'est aussi la ville la plus riche d'Inde en termes de revenus par habitant.
Chetanja, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie du Sud Gujarat. Comment se porte le marché du diamant aujourd'hui à Surat?
Surat est le plus gros centre mondial de taille de diamants. La plupart des diamants vendus dans le monde sont taillés ici. Mais notre industrie change beaucoup. Avant, Surat et l'Inde étaient connus pour les petits diamants, montés sur des bijoux bon marché. Aujourd'hui, les Suratis taillent aussi des grosses pierres. La plupart des entrepreneurs ici ont adopté les technologies les plus avancées. Ils investissent beaucoup. Et malgré la crise à laquelle ils doivent faire face, je pense que ce sont les entrepreneurs suratis qui ont le réseau international le plus solide. Et Surat va demeurer le centre de taille le plus compétitif à l'échelle mondiale.
Parag Shah, vous êtes donc un diamantaire installé ici à Surat.
Je suis l'un des fondateurs et directeurs de la société Gegandela International Limited. Cette entreprise est impliquée dans la transformation des diamants en Inde et dans leur distribution à l'échelle mondiale. Nous avons des bureaux à New York, Anvers, Bombay, Dubaï et Hong Kong. Il n'y a que des membres de la famille qui travaillent dans cette société. Un de mes frères et aussi le frère d'un cousin y sont impliqués. Pour ma part, je dirige les activités de production. Et comme membre important de la famille, je définis également la stratégie de l'entreprise, je m'occupe des finances, des ventes et des approvisionnements en diamants bruts. C'est moi en particulier qui négocie avec la DTC, qui est notre principal fournisseur de pierres brutes. Toutes ces activités se déroulent dans des lieux différents, donc je voyage beaucoup. Le diamant est une ressource naturelle rare. Le rechercher, l'extraire du sol et mettre une mine sur pied, tout cela prend des années. Alors que pour le transformer en pierre taillée, vous devez seulement créer des capacités de production. Dans les années 1990, on trouvait plus de pierres brutes sur le marché que d'usines de taille capables de les transformer. Donc, tout le monde dans le business s'est mis à monter des usines de taille, parce qu'en amont, il y avait beaucoup de pierres brutes et en aval, une demande soutenue. Mais après cette période faste, nous en sommes rendus au point où les capacités de production excèdent désormais l'offre de pierre brute de 20%. Et aujourd'hui, tout le monde chasse le diamant brut. La pression sur le marché des pierres brutes est forte, et l'approvisionnement devient une partie importante du business. Mais depuis le mois d'octobre 2008, eh bien, je dirais que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La situation a changé. Et au moment où je vous parle, je m'inquiète plus de l'état de la demande de diamants taillés que de l'offre de pierres brutes. Russell Mehta.
Rosyblue n'a installé aucune usine de taille à Surat, car cette ville présente des avantages et des inconvénients. Bien sûr, il y a là-bas une industrie puissante et concentrée au même endroit. Il y a aussi un processus de sélection des employés les plus qualifiés pour la taille. Mais dans notre esprit, Surat n'était pas un centre suffisamment sûr, car il y a eu beaucoup d'escroqueries dans le secteur du diamant là-bas. Et auparavant, quand il y avait une grosse pénurie de tailleurs, il était courant que les entreprises se volent des ouvriers. À Surat, un ouvrier pouvait quitter du jour au lendemain son entreprise pour aller travailler chez celle qui lui offrait un salaire un peu supérieur. Pour ces raisons, nous avons choisi d'installer notre usine de taille ailleurs que dans le Gujarat. Nous avons choisi de nous implanter à Indore, à côté de Bombay. Là-bas, nous avons reçu beaucoup de soutien des autorités locales parce que nous employons 1500 personnes sur notre site. Nous avons d'abord dû les convaincre que Rosyblue était un employeur sérieux qui verse ses salaires chaque mois. Et ensuite, nous avons formé les ouvriers à la taille.
Est-ce que vous avez une idée du salaire d'un ouvrier tailleur moyen à Rosyblue ?
Un tailleur à Rosyblue touche environ $150, 110 euros environ par mois. Et nous lui versons en plus toutes les prestations sociales légales. Nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux. Et en tant que client de la Diamond Trading Company, nous avons obligation de nous conformer à leurs principes de bonne pratique. Donc nous traitons nos employés très correctement.
Babu Jirawala, nous sommes ici dans les locaux du Diamond Workers Association, qui est un syndicat qui donc organise les tailleurs qui travaillent ici à Surat.
Notre syndicat est la seule organisation qui s'occupe de la condition des ouvriers de la taille à Surat. Nous nous occupons de leur santé, de leur éducation et de leur salaire. Les membres du syndicat sont originaires des états du Madhya Pradesh, de l'Uttar Pradesh, du Bihar et bien sûr du Gujarat. Il y a environ 400 000 ouvriers du diamant qui travaillent à Surat. À l'échelle du Gujarat, ils sont 1 million. 67 000 travailleurs sont membres de notre syndicat, qui a été créé en 1991. Chaque membre a payé une bonne fois pour toutes une cotisation de 10 roupies, environ 15 centimes d'euros pour y adhérer. Mais il y a un roulement de manœuvres important dans les usines de taille. Certains ouvriers ne restent que 6 mois, et après, ils s'en vont travailler ailleurs. Alors, ça ne les intéresse pas d'adhérer à notre structure. Avant la période de Diwali, les ouvriers travaillaient de 6 heures du matin à 9 heures du soir pour gagner plus. Parce qu'ils savent qu'après cette fête religieuse, il y a toujours un mois de vacances. Alors, vous ne rencontrerez pas beaucoup d'ouvriers aujourd'hui à Surat, parce que les usines de taille sont fermées pendant le mois qui suit la fête hindoue de Diwali, qui est consacrée à la déesse Lakshmi.
Lakshmi is the goddess of wealth.
Lakshmi est la déesse de la richesse. Sa bénédiction nous donne ce qu'il y a de mieux au monde.
tout ce que nous pouvons souhaiter. Mais au-delà de la richesse matérielle, il s'agit bien d'une déesse. Nous prions nos dieux chaque matin. Nous allumons les bougies, nous faisons nos prières, et alors seulement, la journée peut commencer.
Babu Jirawala, donc les tailleurs de Surat travaillent ou bien dans des grandes entreprises ou des unités familiales. Ils sont rémunérés à la pièce taillée. Comment se passe la répartition des salaires ?
Que l'on soit dans les grandes entreprises ou chez leurs sous-traitants, le niveau des salaires dépend d'abord de la grosseur des pierres taillées. Les ouvriers qui taillent les plus petites pierres touchent moins que ceux qui polissent des diamants plus gros. Les salaires dépendent aussi de la pureté des pierres. Le salaire d'un tailleur de diamants ici à Surat va d'un minimum de 5000 roupies, environ 73 euros, à plus de 20000 roupies, 290 euros environ. Il varie en fonction de sa capacité de travail et de son habileté.
Chetan Shah.
Si vous comparez les salaires à Surat avec ceux de l'industrie textile, il ne fait aucun doute qu'ils sont plus élevés dans le diamant. Ils peuvent monter jusqu'à 150 000 roupies, environ 2 000 euros par mois. C'est ce que touche par exemple un cleaver. C'est un des métiers les mieux payés en Inde. C'est normal. Regardez, si je vous confie un diamant brut et que je vous demande d'en tirer la plus grosse pierre, sachant qu'au cours de cette opération du clivage, il y a toujours 40 à 60% de perte de matière. Si vous arrivez à valoriser au maximum la pierre brute que je vous ai confiée par un bon clivage, eh bien vous toucherez plus. Le salaire minimum dans le textile est de l'ordre de 5 à 10 000 roupies, 70 à 150 euros. La rémunération d'un cleaver de diamants, dont je parlais à l'instant, est l'une des plus élevées du secteur. Disons qu'en moyenne, le salaire minimum mensuel dans l'industrie de la taille est compris entre 10 et 15 000 roupies, 140 à 220 euros environ.
Monsieur Shah, êtes-vous au courant qu'il y a eu une grève des travailleurs du diamant ici à Surat en juillet 2008 et que selon nos informations, le salaire minimum a été augmenté de 5 000 à 6 000 roupies par mois?
Vous savez, ces informations viennent des sous-traitants. Et il y a deux sortes d'usines ici. Les grandes compagnies intégrées et de très petites unités de taille sous-traitantes.
Comment se passent les négociations avec les propriétaires des usines ? Ce ne sont pas des conflits très durs. Nous portons les revendications de notre syndicat devant les dirigeants, les propriétaires des usines, et ils les examinent normalement. On se met parfois en grève et on ne travaille pas pendant quelques jours, mais il n'y a pas de manifestations violentes ou d'actions comme des grèves de la faim. La crise ne touche pas encore les travailleurs. Ils sont payés normalement. Mais si la crise dure, alors les ouvriers souffriront aussi.
Avant, tout passait par Anvers. 90%, 100% des diamants passaient avant par Anvers. Aujourd'hui, je crois que la plupart des pays, ils ont des relations directes avec l'Inde.
Dorothée Gizenga, vous êtes ici en tant que directrice d'une fondation à but non lucratif, je crois, qui s'appelle l'Initiative Diamants et Développement. Vous avez suivi donc cette assemblée plénière qui se tient à New Delhi en 2008 pour le processus de Kimberley. Quelles en sont les principales avancées? Que s'est-il passé au juste pendant cette assemblée plénière que l'Inde donc présidait en 2008?
On a adopté l'accord des principes qu'il faut inclure les tailleries et dans le processus de Kimberley. Maintenant, la question, c'est comment et donc le comment. La première étape où ce qu'il va, le diamant brut, c'est dans les tailleries. Il doit être coupé. Et ensuite, il va chez les manufacturiers de bijoux. Et ensuite, il va donc jusqu'à la vente en bijoux. Donc, si les tailleries traitent avec les diamants bruts, ils doivent être partie du système de contrôle du processus de Kimberley.
Alors Annie Denebach, vous qui suivez aussi ce processus pour l'organisation non gouvernementale, l'ONG Global Witness, en tant que campaigner, c'est comme ça qu'on dit ?
On couvre un petit peu tous les aspects de la question, donc la recherche sur le terrain, les investigations, la rédaction de rapports, le lobbying qu'on ferait éventuellement au niveau des gouvernements, le travail avec les médias. Aujourd'hui, le plus gros problème auquel fait face le processus de Kimberley, c'est le problème des diamants illicites bruts qui passent complètement en dehors du processus de Kimberley ou alors au moins à moitié en dehors. Et ça, on le voit partout. Je veux dire, le cas du Venezuela, par exemple, qui nous cause tellement de problèmes depuis quelques années, la totalité des diamants produits au Venezuela sortent du pays en contrebande. La totalité. Ça fait plus de 3 ans que le gouvernement n'a pas donné un certificat de Kimberley. Ils sortent tous, pour la plupart, vers le Guyana, mais aussi vers le Brésil.
Annie Dodenbach, cette traçabilité du diamant depuis la mine jusqu'au port d'exportation, puis ensuite au pays, au diamantaire qui va importer le brut avant éventuellement de le revendre à quelqu'un qui va le tailler. À chaque fois, il faut qu'il y ait un papier pour que le diamant soit traçable. Mais dites-moi, c'est une révolution incroyable, ça, non, dans le domaine du diamant où, à ma connaissance et par tradition, toutes les transactions se font de la main à la main et de façon très informelle.
La clé, en fait, c'est que ça a changé certaines parties de l'industrie, surtout les grandes compagnies qui ont changé leur manière de faire les affaires, qui sont devenues plus transparents, qui sont rentrées vraiment au sein du processus de Kimberley en tant qu'observateurs et comme nous qui participent à toutes les réunions, à toutes les décisions. Mais il y a une grande partie de l'industrie qui reste encore un petit peu en dehors de ces contrôles, qui sont des acteurs petits, moyens, qui ne respectent pas forcément le processus. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et c'est des très petits acteurs, ce n'est pas De Beers, ce n'est pas les grandes compagnies. Mais néanmoins, ils sont nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux maintenant qu'avant. On a des diamants qui passent en contrebande par Dubaï, qui arrivent en Inde. Il y a eu des arrestations il y a quelques mois, je pense. Deux hommes libanais, il me semble, qui étaient à Surat. Et qui ont été arrêtés par la police avec des diamants qui, paraît-il, venaient du Zimbabwe et, paraît-il, ils étaient passés par Dubaï. Bon, il y a eu plusieurs versions de l'histoire, mais c'est un exemple parfait. Et c'était certainement pas la première fois qu'ils faisaient ça.
Pourquoi est-ce que, dès lors, il y a un risque de enfreindre le processus de Kimberley, puisque l'Inde est bien membre du processus de Kimberley?
Oui, mais les agents particuliers ne sont pas nécessairement conformes à la loi. Les pays qui importent émettent les certificats lorsqu'ils les réexportent. Donc, ils importent le diamant, ils doivent vérifier que le diamant arrive avec un certificat. Le diamant peut être trié, mélangé et renvoyé ailleurs. Et en ce moment-là, en réexportant, ils doivent aussi émettre un certificat. Donc l'Inde fait ça. Supposons maintenant cette aérie-là, si elle entre dans le processus de Kimberley, c'est-à-dire que si elle est sous le contrôle du processus de Kimberley, elle va devoir accuser réception de ce colis-là. Mais lorsqu'elle a reçu plusieurs colis et qu'elle maintenant les fait sortir taillés, elle va devoir justifier que j'ai eu tant d'entrées et tant de sorties.
Sir, which room you want? 233. Next wing, second floor. 233A.
Docteur Raoul Coulard, vous êtes secrétaire spécial au commerce, au sein du ministère du commerce et de l'industrie de la République d'Inde. Et à ce titre, vous avez été le représentant qui a présidé au processus de Kimberley, la dernière réunion qui s'est déroulée à Delhi toute cette première semaine de novembre.
L'Inde a pris la présidence tournante du processus de Kimberley au début de l'année 2008. Donc, nous avions établi un secrétariat spécifique au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Gem and Jewelry Export Promotion Council, qui rassemble pour l'essentiel des acteurs de l'industrie impliqués dans le commerce des pierres précieuses et des bijoux, a assisté le secrétariat pour organiser cette présidence. Cette organisation est mandatée par le gouvernement pour veiller à la bonne application du processus de Kimberley en Inde. Nous avons également été en contact avec des organisations non gouvernementales internationales qui suivent aussi ces questions, comme le Partenariat Afrique-Canada et l'ONG britannique Global Witness. Le premier but du processus de Kimberley était d'endiguer le commerce des diamants provenant de zones de conflit. Mais on doit aller au-delà de cet objectif initial. Il ne s'agit plus uniquement de protéger la vie, mais également promouvoir le développement humain. Les pays impliqués dans l'extraction ou le négoce du diamant brut doivent être en mesure d'utiliser la richesse que procure l'exploitation de cette ressource, non pas pour financer des guerres, mais pour assurer le développement de leur population.
N'oubliez pas que le diamant a toujours été un business très traditionnel, une activité familiale, et ce, dans le monde entier.
Anoop Mehta.
Après les années 2000, les conflits en Afrique ont amené les acteurs de la filière à modifier leurs habitudes. Avant, il y avait beaucoup de diamants bruts informels qui entraient sur le marché légal. Avec l'introduction du processus de Kimberley, la filière est devenue beaucoup plus formelle. Désormais, vous devez structurer convenablement votre activité. Vous devez respecter les lois anti-blanchiment. Vous devez bien connaître vos clients. Le processus de Kimberley a amené le business à se professionnaliser. Il l'a globalisé aussi.
Alors ainsi, l'industrie de la taille du diamant s'est beaucoup développée en Inde ces dernières décennies et Surat est même devenue la capitale mondiale de la taille du diamant. On dit que 70 à 80% des diamants au monde seraient taillés à Surat. Mais il n'y a pas seulement la taille, il y a aussi, depuis une vingtaine d'années, je crois, une bourse du diamant qui s'est développée à Bombay et dont vous êtes devenu le président, donc un lieu d'échange, de commerce, de négoce du diamant, c'est bien ça ?
Tous les diamants bruts qui arrivent en Inde sont négociés à la Bharat Diamond Bourse.
The trading goes on.
Ensuite, 85% des pierres sont acheminées vers Surat pour y être taillées. Une fois que les diamants ont été transformés dans les usines de taille, ils reviennent à Bombay, où ils sont à nouveau négociés et triés par taille ou par couleur avant d'être envoyés vers les marchés extérieurs. Il peut aussi arriver que des clients se déplacent à Bombay pour acheter des pierres et les réexporter. Les ordres d'achat peuvent enfin être passés auprès des producteurs indiens par téléphone ou par mail. Et les colis sont ensuite acheminés directement depuis Surat vers les clients finaux.
Nous avons pour ambition de monter les diamants taillés ici à Surat sur des pièces de bijouterie qui seront ensuite vendues sur les marchés internationaux. C'est la seule solution si nous voulons maintenir des profits élevés, qui ne sont possibles que si nous créons plus de valeur ajoutée.
Combien pèsent les exportations de diamants, M. Shah, dans les exportations globales indiennes ?
Le secteur diamantaire représente 700 milliards de roupies, plus de 10 milliards d'euros d'exportation. C'est l'un des secteurs les plus importants en Inde. Nous avons dominé l'industrie de la taille pendant des années. Et il y a maintenant d'autres pays qui veulent prendre pied dans cette activité. Il est donc temps pour l'industrie diamantaire indienne de s'intégrer davantage dans la chaîne de la valeur ajoutée. Quelle que soit leur dimension, les diamants qui sont produits ici sont ensuite revendus très cher à l'extérieur du pays. Nous voulons donc que l'industrie diamantaire Surati utilise les diamants qu'elle transforme pour se lancer dans la bijouterie et qu'elle utilise ses contacts à l'échelle internationale avec des créateurs de mode, des designers de bijoux et des acteurs qui ont pignon sur rue dans la joaillerie. Il est logique que Surat devienne aussi un centre important de production de bijoux. C'est dans cette perspective que nous allons très prochainement mettre en place une très vaste zone économique spéciale orientée vers l'exportation.
Prarag
Shah.
Le diamant est moins sujet que d'autres produits aux variations de l'économie. Tout le monde compte se marier un jour.
En tout cas, tout le monde envisage d'avoir une petite amie. Et fort heureusement, le diamant est le meilleur ami des femmes, comme le dit la chanson. Le diamantaire se fiche de savoir si vous aimez les diamants ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est le potentiel d'un marché. Et je peux vous assurer que l'Inde et la Chine sont des marchés prometteurs. Ces économies émergentes comptent un très grand nombre de consommateurs potentiels. La demande de diamants va continuer à être soutenue, précisément parce que ces marchés partent de zéro. Et comme désormais, les filles peuvent même se marier deux ou trois fois, elles consommeront plus de diamants.
Destruction of traditional society.
Diamonds being a something of a very very high end luxury.
Le diamant est un article de luxe que vous n'achetez pas tous les jours, comme votre lait ou votre pain. On l'acquiert aux grandes occasions, à Noël, Thanksgiving, et le gros des ventes de diamants est réalisé en peu de jours. Nous devons avoir beaucoup de liquidités pour financer notre stock de diamants taillés, toujours très important, parce que nous devons tailler tous les jours, tandis que les ventes sont réalisées sur 3 mois dans l'année.
Avez-vous perdu, vous aussi, beaucoup d'argent dans la crise financière qui vient d'avoir lieu ?
Non. Nous sommes prudents et nous ne nous endettons pas beaucoup. Notre taux d'endettement ne dépasse pas 25% du capital. Nous réinvestissons l'argent dans le business. Et si on le fait avec une grande rigueur, alors tout va bien.
Alors, Monsieur Mehta, depuis qu'on est ici en Inde, depuis 3 ou 4 jours, il y a une chose qui nous frappe. On a posé beaucoup de questions d'économie à beaucoup de gens. Et on s'aperçoit que la plupart des gens ici ont beaucoup d'économies. Même les gens les plus pauvres qu'on voit dans des bidonvilles ont l'équivalent de 3 ou 4 mois de salaire en cas de besoin. Et donc on a l'impression que l'épargne est importante dans la société indienne. Est-ce que dans les entreprises, et notamment dans les entreprises de diamants, l'épargne est quelque chose d'important? Et est-ce que les entreprises de diamants ont beaucoup de capitaux à placer?
D'une manière générale, les Indiens ont une mentalité d'épargnant. C'est un pays de tradition rurale. Quel que soit leur niveau de vie ou de salaire, ils sont toujours tentés de mettre de l'argent de côté en prévision de la saison des pluies. Ce comportement s'explique par l'absence de protection sociale, comme il en existe dans le monde occidental. Les gens, ici, épargnent pour faire face aux problèmes. C'est la même chose pour les entreprises qui ont toujours du cash disponible. La confiance dans les sociétés diamantaires indiennes est forte. Les banques du monde entier nous accordent plus facilement leur crédit parce qu'elles savent que nous réinvestissons en permanence notre capital pour développer notre activité. Cela dit, le milieu diamantaire est très fermé. Et si les banques font des difficultés pour me prêter de l'argent, je peux aussi emprunter de l'argent auprès d'une autre entreprise diamantaire. Ça se pratique beaucoup dans le milieu. Si j'ai bonne réputation, je peux trouver de l'argent où je veux.
The diamond community in India and I think across the world is a very small community.
La communauté diamantaire en Inde et dans le monde entier est toute petite.
Typically a lot of them are coming from the same.
Les Gujaratis qui tiennent le business en Inde viennent tous de la même ville et font du commerce entre eux.
Most of the people, they know each other's background.
On connaît le parcours de tout le monde, on connaît la famille. Il y a souvent des mariages entre familles. Nous devenons concurrents dès que nous franchissons la porte de nos bureaux respectifs. Mais une fois dehors, nous allons aux mêmes fêtes, aux mêmes mariages. Nous sommes bons amis. Et nous profitons de la vie ensemble. C'est une communauté dont l'alchimie est assez unique. Nous sommes rivaux dans le business, tout en partageant les mêmes règles de vie sociale.
Russell Mehta, il y a aussi donc, le commerce des diamants est une affaire qui concerne beaucoup la communauté Gujarati et peut-être plus spécifiquement la communauté Jain. Quel est le rôle finalement que joue le jainisme auprès des diamantaires?
Les vieilles familles traditionnelles qui ont lancé le diamant en Inde sont Jain. Les Jain respectent le principe de la non-violence et se répartissent en deux sectes. Celle des Svetanbar et celle des Diganbar. Les Diganbar, dont ma famille fait partie, suivent les principes religieux de manière plus stricte que les premiers. Leurs gourous parcourent le monde sans porter de vêtements. Ils vivent avec le minimum et ne doivent rien posséder. Ces prophètes doivent amener leurs coreligionnaires vers ce que nous appelons la moksha, c'est-à-dire la libération finale de l'âme, l'équivalent du nirvana bouddhique.
There are many instances of diamond businessmen who have renounced the.
Il y a beaucoup d'exemples de diamantaires qui ont renoncé au monde de la richesse et ont effectué leur diksha, un rituel d'initiation qui les destine à vivre comme un moine pour le restant de leur vie.
One of the example is in the Rosyblue family.
C'est arrivé au sein même de la famille Rosyblue. Un de nos partenaires qui dirigeait les activités de la compagnie au Japon a décidé qu'il avait accumulé suffisamment de richesses. Il a quitté la société, il est revenu en Inde, il a accompli sa diksha et a renoncé à sa richesse. C'est incroyable. Il l'a vraiment fait.
La riche corporation des diamantaires s'apprête à féliciter les renonciateurs, ou dikshtari. L'étika appliquée sur nos fronts porte au centre un brillant à la place du traditionnel grain de riz. Le programme débute. On hisse sur scène un vieux diamantaire respecté par tous ses pairs. Il a bâti sa fortune à Anvers avec la contrebande de diamants. Il renonce à prendre la parole et se lève à grand-peine pour bénir Seventibai. Sa famille possède un manoir à Malabar Hill et un appartement à Manhattan, au-dessus d'un concessionnaire Rolls-Royce. Un des intervenants parle en toute franchise du passé de Seventibai. Pas un péché dont il ne se soit rendu coupable. D'autres, la mine sombre, évoquent les errements d'une vie dont Seventibai a pleinement profité avant de s'engager sur la voie de la cèse. Un courtier qui travaille pour mon oncle pense que la décision du diamantaire d'embrasser la diksha est motivée par quelque chose d'énorme, une fraude massive ou un désastre financier. Mais aujourd'hui, Seventibai Shimanlal Latani n'est plus simplement un diamantaire dont les affaires marchent relativement bien. D'un seul bond, il a dépassé des gens qui jusqu'alors avaient mieux réussi que lui. Cet après-midi, il est pour tous un objet d'admiration, sinon d'envie. Le moment est venu. Devant 35 000 personnes, Seventibai demande à son gourou la permission de prendre la voie de la diksha. Les trompettes retentissent pour proclamer le consentement du gourou. Et le dikshtari se met à danser comme un fou autour de la scène en agitant un grand chiffon blanc. Le reste de la famille suit, puis tous sortent pour aller se faire raser le crâne entièrement, à l'exception de 7 cheveux que le Maharaj Saheb arrachera de ses mains.
Raksha, vous êtes assez jeune, est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de la deuxième génération des diamantaires indiens, puisque c'est un commerce, une industrie qui est relativement jeune ici, qui s'est affirmée dans les années 50-60. Quelle différence établissez-vous entre la première génération de diamantaires, celle peut-être de vos parents, et puis la vôtre ?
There are differences.
Bien sûr, il y a des différences. Mon père et mes oncles appartenaient à la première génération, celle qui a démarré le business du diamant dans les années 60-70.
Ils ont cherché à offrir une vie décente à leur famille, à leur assurer les moyens de subsistance. Avec la génération qui s'est lancée dans le business dans les années 1990, l'échelle a changé. Je ne fais pas du business pour couvrir mes besoins essentiels, mais parce que j'ai envie de créer une organisation globale qui n'est plus uniquement centrée sur la famille, mais qui concerne beaucoup plus de monde. 3000 personnes travaillent pour moi aujourd'hui, et leur donner un bon niveau de vie me procure une immense satisfaction, autant que d'assurer à mes proches une vie décente. Nous apportons de la valeur ajoutée à leur vie. Bien sûr, vous gagnez plus d'argent si votre entreprise se développe bien. Mais ce n'est pas l'unique but. Quelque part, nous rendons hommage à nos aînés, ceux qui ont créé les conditions pour que les entreprises que nous dirigeons aujourd'hui puissent se développer sur une échelle globale. Il est de notre responsabilité, en tant qu'Indien, en tant que chef d'entreprise, de faire grandir notre activité. Nous avons des bureaux dans différentes parties du monde. Notre personnel est multiculturel, entre des Chinois de Hong Kong, des Français qui travaillent à Anvers, ou des employés qui évoluent en Afrique. Les gens qui travaillent pour nous sont la preuve vivante que nous faisons aujourd'hui du business dans une culture bien plus diverse que celle de nos aînés. Et maintenant, nous commençons aussi à penser à la diversification de nos activités parce que les solides revenus que nous en tirons, nous aimerions les investir dans de nouveaux secteurs. Le développement économique indien a ouvert tant d'horizons que nous aimerions explorer. Notre niveau d'aspiration est très différent de celui de la vieille génération. Nos aînés n'ont jamais pu se permettre le luxe de rêver aussi grand que nous.
Notre industrie est très mûre désormais, avec 50 années d'expérience et de connaissances accumulées. Si les affaires ne marchent pas bien dans un pays parce que les gens y deviennent plus pauvres, il y aura toujours un endroit dans le monde où les gens s'enrichissent. Et tant que ce cycle se poursuivra, le commerce des diamants continuera. Et puis, l'amour que les femmes portent aux pierres précieuses ne s'éteindra jamais, n'est-ce pas?
And my simple question is,
moi, je me pose une question toute simple. Ai-je vraiment une bonne raison d'aller à Anvers et de payer toutes les taxes pour que mon bureau sur place puisse vendre mes diamants taillés à une lady française? Supporter le coût d'un bureau en Europe a-t-il un sens? A contrario, créer un bureau à Dubaï pour atteindre les marchés à une échelle mondiale, ça a un sens.
J'ai
toujours un bureau à Anvers, mais les frais de structure en Belgique et à Dubaï sont sans comparaison. Je parle des coûts salariaux, mais aussi des taxes, bien sûr. La Belgique est un pays où les taxes sont très élevées, donc... Si je peux vendre des diamants taillés aux ladies du monde entier directement à Dubaï, est-ce que je vais m'embêter à maintenir un bureau à Anvers pour faire la même chose?
La mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Troisième volet, Bombay, Inde. Le grand jeu des chats et des métas.
Un grand merci à Dilip Mehta. Merci également à Suzanne Aymond, Caroline Germain, Russell Mehta, Suketu Mehta, Shariva Naik, Marc van Bokstal, Iris van der Weken, Didier Verbruggen et Eddie Vleestrager. Une pensée particulière à Christine Gage et Lorénaine Plancher.
Prise de son, Patrice Klein. Traduction, Prakash Radvalne. Lecture de Bombay Maximum City de Suketu Mehta. Avec les voix de Didier Doué et Laurent Lederer. Mixage Éric Boisset.
Avec le soutien de Radiophonie Europe. Sur les docks, Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
LSD, la série documentaire, c'est encore nouveau, mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est une pierre polie par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez devenir expert, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la contrebande ou nous réécouter pour le coffre-fort, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous y trouverez aussi le 5e épisode parisien de la série. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, dernière étape du diamant, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, chèque emploi service.